Le journal d'Haïti et des Amériques, Hugo Lanoué, bonjour.
Bonjour Edmond, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous. Au sommaire, la fermeture des centrales à charbon au Chili en 2040. C'est la promesse du président Sebastián Piñera. Sur le papier, l'idée est belle. Problème, 40% de l'électricité provient de cette énergie polluante. La politique des sanctions de l'administration Trump, Washington punit Cuba pour son soutien au Venezuela de Nicolas Maduro. Quel risque pour l'économie de l'île? Élément de réponse dans la revue de presse des Amériques. La culture, ça coûte cher et ça ne sert à rien. C'est en substance la pensée de Jair Bolsonaro, le président brésilien décide de fermer le ministère de la Culture et de couper dans les budgets aux grandes dames des professionnels du secteur, vous l'entendrez. Et puis, l'affaire Petrocaribe à la une de l'actualité haïtienne. On continue d'éplucher les 600 pages du rapport de la Cour des comptes sur cette affaire de corruption avec notre correspondante à Port-au-Prince.
RFI, la radio del mundo.
La journée mondiale de l'environnement, c'est aujourd'hui et la COP25, c'est dans 6 mois. Cette année, elle se tient à Santiago du Chili. Pour l'occasion, le président chilien, Sebastián Piñera, prévoit donc de fermer toutes les centrales à charbon dans le pays d'ici à 2040. En matière d'environnement, le Chili sert souvent d'exemple, tant le pays a développé les énergies renouvelables, mais 40% de son électricité provient toujours des centrales à charbon, très polluantes. Reportage sur place de Justine Fontaine.
Dans le grand parc de la banlieue de Santiago qui accueillera la COP25 en décembre, le président chilien Sebastián Piñera officialise l'accord signé entre gouvernement et entreprises propriétaires de centrales à charbon.
Au cours des 5 prochaines années, nous allons retirer du marché 8 centrales à charbon, ce qui va réduire de 20% la part du charbon dans notre matrice énergétique.
Parmi les centrales qui fermeront très bientôt, des unités vieilles de près de 60 ans qui appartiennent à la multinationale française Engie. Axel Levesque, son directeur au Chili.
L'accord aujourd'hui prévoit la fermeture de 4 centrales de Engie. Donc ça veut dire que le 50% des centrales au charbon qui ont une date de fin de vie ici au Chili sont celles d'Engie.
Ces annonces sont pourtant très insuffisantes selon Sarah Larraín, directrice d'une ONG qui milite pour la fin des centrales à charbon dans le pays.
C'est un problème global, mais aussi un problème de pollution au niveau local ici. Donc annoncer que sur 28 centrales à charbon ne seront fermées que les 8 plus anciennes, cela m'indigne, c'est inacceptable.
Pour elle, le Chili pourrait sans problème sortir du charbon dès 2030, avec des bénéfices importants pour la santé des riverains chiliens des centrales. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
La revue de presse des Amériques avec Romain Lemaresquier. Bonjour Romain.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, les nouvelles sanctions américaines contre Cuba qui ternissent un peu plus l'avenir de l'île puisque ces mesures risquent de frapper durement un secteur essentiel, le tourisme.
Oui, à compter de ce mercredi, il est désormais interdit aux Américains de se rendre à Cuba en voyage de groupe. Ces nouvelles sanctions visent également les bateaux de croisière, de pêche ou de plaisance ainsi que l'aviation privée ou d'affaires, précise le quotidien américain El Nuevo Herald. Selon les autorités américaines, ces mesures sont tout simplement une conséquence du soutien de Cuba au régime de Nicolas Maduro.
Alors comment réagit la Havane, Romain ?
Alors des sanctions bien entendu dénoncées par les autorités locales, précise le quotidien cubain Trabajadores. Bruno Rodriguez, le ministre cubain des Affaires étrangères, dans un message posté sur les réseaux sociaux, estime que les États-Unis cherchent tout simplement à asphyxier l'économie cubaine pour obtenir des concessions politiques. Ils échoueront encore une fois, annonce-t-il. Des mesures qui ont provoqué une réaction de la Russie, autre allié de la Havane, précise El Nuevo Herald, qui cite le vice-premier ministre russe qui a promis que la Russie apporterait toute aide nécessaire pour faire face à ces nouvelles sanctions.
Au Venezuela, un site d'information proche de l'opposition condamné à verser des dédommagements au président de l'Assemblée constituante, considéré comme le numéro 2 du régime, Diosdado Cabello.
Oui, la Patilla, site d'information que l'on utilise très fréquemment dans le cadre de cette revue de presse, a été condamné par le tribunal suprême de justice à verser 30 milliards de bolivars, soit environ 5 millions de dollars pour préjudice moral, peut-on lire sur ce site. Cette condamnation fait suite à la reproduction en 2015 sur le site de La Patilla d'un article du quotidien espagnol ABC qui présentait Diosdado Cabello comme étant un chef de cartel de la drogue. Un article qui avait également été repris par le quotidien El Nacional à l'époque et ce quotidien, qui est aussi proche de l'opposition, avait déjà été condamné en 2017 à verser 2 milliards de bolivars à Diosdado Cabello.
Et Romain, comment expliquer cette différence abyssale entre ces deux amendes ?
Eh bien tout simplement à cause de l'inflation endémique qui sévit au Venezuela, comme le rappelle 2001. Plus de 130 000% d'inflation en 2018 selon la Banque Centrale Vénézuélienne. Plus de 1 000 000 % d'inflation selon le FMI. Voilà tout simplement ce qui explique cette différence de 28 milliards de bolivars entre ces deux amendes.
Des négociations prévues aujourd'hui à Washington. Une délégation mexicaine menée par le ministre des Affaires étrangères se rend à la Maison Blanche pour s'entretenir avec le vice-président Mike Pence. Au menu des discussions, la menace brandie par Donald Trump, celle d'appliquer à partir du 10 juin des taxes sur les produits mexicains importés. Et cela si le Mexique ne redouble pas d'efforts pour stopper les migrants à la frontière entre les deux pays. Certains républicains expriment des réticences. Donald Trump, lui, ne fléchit pas, Anne Corpé.
Les experts sont quasiment unanimes. Imposer une taxe sur tous les produits mexicains risque de peser lourd sur les économies des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères du Mexique discutera ce mercredi à Washington de ses nouveaux droits de douane avec son homologue américain et tentera aussi d'en savoir plus sur les exigences américaines en termes de contrôle des flux migratoires. Mais depuis Londres, Donald Trump a douché les espoirs que ces négociations aboutissent. Donald Trump doit cependant faire face à une certaine hostilité au sein de son propre camp. Plusieurs élus républicains menacent d'organiser un vote au Congrès pour bloquer la mesure. Mais le président n'y croit pas. Je ne pense pas qu'ils le feront et s'ils le font, c'est insensé, a-t-il déclaré avant d'ajouter. Rien n'est plus important que la frontière. J'ai un énorme soutien des républicains. Le président de la Réserve fédérale américaine est entré dans le débat ce mardi. Il a mis en garde contre la multiplication des fronts de la guerre commerciale. Le président du Mexique s'est dit pour sa part prêt à rencontrer Donald Trump pour tenter de le convaincre de ne pas mettre sa menace à exécution. Anne Corpet, Washington, RFI.
On continue de parler du Mexique, Romain, avec l'arrestation d'un gourou mexicain hier à son arrivée à l'aéroport de Los Angeles. Un certain Nason Joaquin Garcia, considéré comme le chef d'une organisation religieuse, la Lumière du Monde, qui revendique plus d'un million d'adeptes dans le monde.
Oui, ce chef spirituel que ses adeptes surnomment l'apôtre, selon La Jornada, a été arrêté à son arrivée en Californie où il est accusé de viol sur mineurs, de diffusion d'œuvres pédopornographiques, de trafic d'êtres humains et d'autres crimes, selon le procureur qui a détaillé 26 chefs d'accusation, précise le quotidien. Une caution de 25 millions de dollars a été fixée. Une arrestation qui a bien entendu été dénoncée par cette organisation.
Et qu'est-ce que cette organisation, justement?
Il s'agit d'une église chrétienne qui revendique donc plus de 1 million d'adeptes, qui compte plus de 15 000 temples dans 58 pays, selon Elle Universal, qui précise que ces données proviennent du site internet de l'organisation. Le siège de cette organisation est au Mexique, plus précisément à Guadalajara, où hier, quelques 1 000 fidèles se sont d'ailleurs rendus pour prier pour leur chef spirituel, comme on peut l'entendre à l'instant. Alors cet apôtre, comme il le surnomme, obligeait ses victimes à réaliser des actes sexuels, sans quoi, selon lui, elles allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Les fidèles de cette organisation doivent respecter un code moral en échange d'une promesse de salut éternel. Une organisation qui a fait l'objet de dénonciations au Mexique, mais la justice mexicaine n'est jamais parvenue à ouvrir ou lancer une procédure. C'est donc la justice américaine qui va tenter de mettre cette affaire au clair, même si, selon Nason Joaquin Garcia, un apôtre de Dieu ne peut être jugé.
La presse américaine passe en revue. Merci, Romain Le Mareski. Après l'Amérique centrale, descendons plus au sud, direction le Brésil. Hier sur RFI, nous entendions l'appel lancé par le directeur du musée de Rio. Elle est des fils ravagés par les flammes. Il y a 9 mois, peine à renaître de ses cendres, en cause la politique, ou plutôt la non-politique culturelle de Jair Bolsonaro, qui coupe drastiquement les budgets dans le secteur. Au grand dam des professionnels de la culture, Sarah Cozzolino.
Nous sommes au nouveau siège de l'orchestre d'instruments à vent de la ProArch. C'est la maison d'un grand ami.
Avant, l'orchestre était hébergé dans la ProArch, une école de musique populaire brésilienne de plus de 60 ans qui a dû fermer en décembre dernier. Claudia Ernesti Dias y était professeure de flûte.
On a vraiment été pris par surprise, on ne s'en doutait pas, on savait que l'école était en crise, mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle allait devoir fermer.
L'école a commencé à péricliter il y a 2 ans quand Petrobras, la compagnie pétrolière nationale, a cessé de participer au financement des projets socioculturels de l'école. Pour l'instant, les deux orchestres d'instruments à vent, d'enfants et d'adultes, continuent de fonctionner grâce à la bonne volonté de tous. Les musiciens viennent bénévolement, par exemple. une manière de résister, selon Claudia.
Actuellement, on fonctionne selon un système que l'on appelle les parrains culturels. Ce sont des amis qui ont toujours suivi ce projet, qui comprennent qu'ils traversent une crise. Ces personnes déposent donc une petite somme d'argent chaque mois, et avec ça, on arrive à payer le loyer de cette maison.
Un système D pour s'adapter à la crise du secteur culturel au Brésil, une crise antérieure au gouvernement de Jair Bolsonaro. Mais cette année, la baisse du plafond de la loi Rouanet a touché de plein fouet les acteurs culturels. Depuis 1991, cette loi permet aux entreprises de financer des projets artistiques contre une exonération fiscale. Mais son plafond est passé de 60 millions de reais à 1 million, soit 227 000 euros.
Avoir une réduction, une coupe de moyens si importante pour toute la culture au Brésil, ça peut être vraiment quelque chose de tragique. La culture, l'art, tout ce qu'on crée là-dedans, c'est aussi vraiment une économie. Ça parle beaucoup aussi de tous les autres business qui est le Brésil. Alors c'est ça que me paraît personnellement le plus grave.
Mi-avril, Hilda Santiago, la directrice du Festival de cinéma de Rio, a appris que Petrobras et la BNDES, la Banque nationale de développement économique et social, retiraient complètement leur apport financier au festival. Ils participaient chacun à hauteur de 20% du budget.
Et c'est vraiment une énorme opération qu'il faut mettre en place. Alors, on n'est pas sûr, on a l'espoir de le faire. Nous travaillons beaucoup, beaucoup pour trouver les moyens. On parle aux producteurs, à des institutions internationales. Mais la vérité, c'est que le festival n'est pas assuré.
Pour Hilda, la mesure fragilisera davantage les nouveaux projets et les acteurs culturels situés en dehors de l'axe Rio-São Paulo, où les grandes entreprises ont le plus d'intérêt à investir. Dani Monteiro se bat pour que les pouvoirs publics regagnent un rôle important dans le secteur. La plus jeune députée de l'État de Rio fait partie du PSOL, le Parti Socialiste.
La culture est vue comme une dépense, mais dans ces moments de fondation, mentalisme conservateur, je pense qu'elle est aussi vue comme quelque chose de dangereux. Principalement, la capacité des jeunes à s'exprimer à travers l'art, connaître leur corps et en faire quelque chose, ça effraie énormément le président.
Le gouvernement de Jair Bolsonaro considère la culture et l'éducation comme des secteurs de gauche où se niche un marxisme culturel et l'apologie de mœurs légères. Pour le président brésilien, la politique sécuritaire est la vraie priorité. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'affaire Petrocaribe fait encore la une en Haïti. Vendredi, la Cour des comptes a publié le deuxième tome de son rapport sur la gestion du fonds de ce programme de coopération apporté à Haïti par le Venezuela. Le premier rapport date de janvier, 300 pages. Le second, date de vendredi, 600 pages. Amélie Baron, vous êtes notre correspondante à Port-au-Prince. Comment peut-on expliquer un tel volume d'audit ?
Pour ce qui est du contexte, rappelons-le, les juges ont entrepris cet important travail d'analyse comptable et financière en réponse au mouvement Petrocaribe Challenge qui a débuté à l'été dernier sur les réseaux sociaux. Sans cette mobilisation de jeunes citoyens, nous n'aurions peut-être pas eu aujourd'hui ces documents. Et c'est là tout le problème, car ce travail, la Cour supérieure des comptes aurait dû le réaliser chaque année. Car les fonds Petrocaribe ne sont pas sortis mystérieusement des caisses de l'État. À chaque budget annuel, l'argent était attribué à des ministères pour des projets. Et à chaque année fiscale, la Cour supérieure des comptes aurait dû produire ce qu'on appelle une loi des règlements. C'est en quelque sorte un rapport pour dire si oui ou non le budget qui avait été voté en début d'année a bien été dépensé là où il devait l'être.
Et il n'y a pas que la Cour des comptes qui n'a pas fait son travail.
Ça n'est pas d'aujourd'hui que le mot Petrocaribe est associé à l'idée de corruption. Dès 2010, ce fonds avait été suspecté d'être utilisé à des fins politiques et partisanes. Et on voit bien aujourd'hui le constat. Les 600 pages du rapport sont une compilation de suspicions de fraude, de surfacturation, de clientélisme ou encore de possibles détournements de fonds. Mais donc le problème, c'est que les institutions de contrôle n'ont pas réagi. Car Haïti dispose d'administrations qui sont chargées de veiller à la bonne gouvernance financière. Il Il y a tout d'abord l'ULCC, qui est l'unité de lutte contre la corruption. Il y a aussi l'UCREF, qui est l'unité centrale de renseignement financier. Ces deux unités se chargent d'analyser tout mouvement de capitaux qui pourrait paraître suspect, dont l'origine serait inattendue ou douteuse. Ces institutions peuvent être saisies par des banques, par des comptables, des notaires, bref, toute personne qui, dans le cadre de son travail, pourrait être alertée par une transaction financière qui semblerait illicite. Pour l'unité de lutte contre la corruption, même de simples citoyens peuvent saisir l'institution. Maintenant, compte tenu des risques de représailles et vu la lenteur de la justice du pays, la peur d'être un lanceur d'alerte et donc cette omerta peuvent malheureusement largement se comprendre.
Il n'empêche, les représentants des citoyens n'ont pas fait leur travail non plus.
Effectivement, chaque année, les députés et les sénateurs doivent voter le budget national et normalement, pour clore une année fiscale, avant d'en entamer une autre, ils doivent donc voter la loi des règlements qui doit être préparée, on le rappelle, par la Cour supérieure des comptes. Or, les années se sont écoulées, les budgets ont été votés, ont même été amendés et jamais une loi des règlements n'est passée au Parlement. Donc la Cour des comptes n'a pas fait son travail de contrôle annuel, les parlementaires n'ont pas eux non plus fait leur travail de contrôle. Donc les près de 2 milliards de dollars du fonds Petro-Caribé ont été dépensés sans que jamais personne ne soit inquiété sur la bonne ou la mauvaise gestion de cet argent. Et aujourd'hui, Haïti a donc cette colossale dette à rembourser au Venezuela sans que les pétrodollars n'aient vraiment été investis dans des projets qui auraient pu favoriser le développement économique du pays.
L'affaire Petro-Caribé expliqué par notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron. On reste dans les Caraïbes avec le journal de la première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Hugo.
Benoît, bien, mais peut mieux faire. Telle est l'appréciation globale portée par les touristes qui visitent la Martinique.
Oui, ils sont très nombreux chaque année, jusque-là tout va bien, mais ils ne repartent pas tous ravis de leur séjour, et ça évidemment c'est moins bien. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude réalisée chaque année, en 2018, donc pour la dernière, pour le comité du tourisme de la Martinique, Guy Etienne.
En 2018, pas moins de 16 aspects ont été soumis au jugement des touristes de séjour qui majoritairement considèrent que les prestations sont globalement moyennes en Martinique. D'abord concernant l'hébergement, qui recueille 55,5% de très satisfaits contre 45% en 2017. Ensuite, il y a la restauration, 40% de très satisfaits, c'était 45% l'année précédente. Quant au prix global du voyage, seuls 34,8% des visiteurs se disent très satisfaits, ils étaient 42% la saison d'avant. Inversement, les aspects les moins appréciés de l'île sont, comme les années précédentes, les excursions, le shopping et la vie nocturne. Moins de 20% des touristes se déclarent très satisfaits. Néanmoins, notez que ce tourisme de séjour a encore généré la meilleure recette l'an dernier, plus de 421 millions d'euros dépensés sur le territoire devant les croisiéristes, 17,2 millions, suivi des plaisanciers qui ont déboursé 12,3 millions chez nous.
Direction maintenant la côte sous le vent de la Guadeloupe où la récolte de miel de Tandacayou, c'est un arbre mellifère, s'annonce excellente cette année, la meilleure depuis 2007. Les conditions climatiques ont permis une floraison massive et donc une production de miel en augmentation. Le prix du miel va donc baisser, point d'interrogation ? Eh bien, pas sûr. En tout cas, selon Pierre Séjor, apiculteur retraité, il est au micro de Josiane Champion.
L'abondance actuelle vient compenser une pénurie de début d'année. Et puis, ce qu'ils doivent savoir aussi, le miel, il n'est pas, à mon avis, aussi cher que cela, malgré les 28 euros le litre. Ce que je peux dire, c'est que le miel a augmenté les précédentes années, mais cette année, il n'a pas augmenté. Et je peux donner la garantie que l'année prochaine, il n'augmentera pas. Cela étant dit, rappelez-vous que le miel, il y a 36 ans de cela, en 83, quand on a relancé la filière apicole, le miel coûtait 25 euros. C'était 180 francs le litre. Donc, après 36 ans, le miel, finalement, on n'a augmenté que de 3 euros. Donc, 1 euro tous les 10 ans. Donc, c'est pas beaucoup. Sans compter que la valeur du miel aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à sa notoriété qui fait de ce miel-là le miel d'excellence.
Le miel de Tandacayou, en un seul mot. Bon après-midi Hugo, à demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à vous. Très belle journée. Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Une édition à retrouver, vous le savez, sur notre site internet, RFI.fr et les réseaux sociaux. L'essentiel de l'actualité américaine, caribéenne et haïtienne à retrouver également sur nos applications mobiles RFI Pure Radio. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.